Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Chers auditeurs, avant de plonger dans notre podcast d'archives, permettez-nous de vous offrir un brin de contexte. Ces enregistrements sont des témoins du passé, des fragments historiques précieux. Nous vous invitons à écouter avec curiosité et respect en explorant les voix et les sons qui ont façonné notre histoire, tout en acceptant que les propos sont eux aussi des moments d'archives et peuvent, dans certains cas très rares, porter à confusion aujourd'hui. Merci de votre compréhension et bon voyage dans nos archives. Alors on a le plaisir aujourd'hui dans l'émission en français sur Radio SBS d'avoir Gilles Lelouch. Bonjour.
Bonjour.
C'est un plaisir parce que c'est vous êtes bien aimé en Australie en tout cas.
Je suis ravi de l'apprendre. Je savais pas, mais j'ai cru constater ça lors des deux présentations que j'ai fait à Sydney et à Melbourne. Et c'est des accueils. Alors je sais pas si les gens me connaissent exactement, mais en tout cas ils sont extrêmement chaleureux. Voilà. Donc en tout cas ils donnent le change. J'ai l'impression qu'ils me connaissent.
Voilà. Et ils vous connaissent un peu grâce à nous parce que vous avez plusieurs films sur notre plateforme de rattrapage en demande. Donc c'est aussi un peu grâce à SBS. Je vais pas vous faire une interview à la Raphaël Mesrahi, mais vous êtes originaire de Savigny-sur-Orge et moi aussi.
C'est pas vrai. Eh oui, je suis né là-bas. Je suis né là-bas en 1972. Je sais pas quand vous êtes né vous, mais j'ai grandi jusqu'à mes 8 ans. Je suis resté 8 ans là-bas.
Ouais, moi aussi, en fait. Je suis pas né à Savigny-sur-Orge. Je suis né à Maisons-Alfort. Mais j'ai vécu de 2 ans à 20 ans à Savigny-sur-Orge. J'ai fait toute ma scolarité. Avenue Pasteur et Avenue Robert-Letrot.
Moi, j'étais dans un truc qui s'appelait Claire Village.
Ouais. Moi, j'étais resté au collège des Gâtines.
Eh ben, moi aussi. Enfin, pas, j'étais pas au collège. J'étais, à l'école maternelle et je suis parti pour pendant mon CM1, je crois.
Et ben voilà, on est à la même origine.
C'est incroyable. En Australie, c'est rare.
Allez, on va parler cinéma. On est là pour ça. Vous êtes là pour deux films qui ont été marquants pour vous ces dernières années. On va d'abord commencer par le gros succès en France, Sink or Swim, Le Grand Bain. Un film que moi j'ai eu la chance de voir en France d'ailleurs, très sympa, mais avec un sujet plus profond que juste de la comédie en fait.
Oui, mais en fait, c'était pas mon intention quand j'ai écrit le film, c'était pas de finalement de m'enfermer dans un genre qu'il soit comédie, drame ou je ne sais quoi. J'avais envie de faire le film que j'avais envie de voir en fait. Et pour ça, je me suis appuyé sur une constatation que je voyais, que j'observais dans mon pays. Et je trouve que voilà, la France depuis quelques années dans une espèce de pas de dépression parce que le mot est trop fort, mais dans une espèce de mélancolie comme ça où il y a une sorte de perte de repère, perte d'espoir, perte de foi, une sorte d'illusion un peu perdue et j'avais envie de parler de ça et de la capacité qu'on a de se remotiver à travers le collectif. Moi, je crois vraiment en ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'on vit des périodes de plus en plus solitaires où on nous apprend à être de plus en plus seuls. Je suis pas le premier à le dire, mais les réseaux sociaux pour moi sont une espèce de mouroir plus qu'un tremplin social. Je pense que c'est tout le contraire. Et j'avais envie de faire un film qui parle de ça, de gens qui sont un peu abîmés, mais qui dans l'effort collectif, le sport amateur en l'occurrence, vont redynamiser un peu leur vie, remettre un petit coup d'électricité dans un électrogramme, un encéphalogramme un peu trop plat. Et voilà. Et donc c'est un film que j'ai décidé mélancolique et très joyeux à la fois. Mélancolique quand les personnages sont seuls et joyeux quand ils sont en groupe. Parce que du groupe naît l'euphorie et c'est quelque chose auquel je souscris absolument. Voilà.
Alors pour parler un peu de l'histoire, c'est un groupe d'hommes qui se retrouvent ensemble. Ils ont chacun leur petite écorchure dans la vie. Et puis ils décident, il y en a un principalement qui décide de joindre cette équipe de natation synchronisée masculine. Et puis ça ouvre tout plein de possibilités. Et puis il se rend compte que son problème est pas plus important, pas moins important que celui des autres. Avoir quelqu'un comme Benoît Poulvorde en tête d'affiche d'un film comme ça, c'est vrai qu'on s'attend à quelqu'un comme Benoît Poulvorde, on l'a eu nous dans le programme, à une comédie, mais en fait il est tellement plus profond, Benoît.
Moi, je trouve que Benoît est un génie de la comédie. Quand j'entends de la comédie, c'est du jeu d'acteur. C'est quelqu'un qui a une densité, une profondeur, une poésie et une fêlure qui est exceptionnelle et rare. Et moi, j'ai la chance de le connaître très intimement, puisque j'ai fait mon premier film que j'avais co-réalisé, Narco, il y a une quinzaine d'années. Et je l'ai rencontré pour cette occasion-là. Et c'est quelqu'un qui me trouble par sa capacité à déjà d'être extrêmement généreux. Voilà, c'est quelqu'un qui donne beaucoup aux autres. Notamment, moi, j'ai pu voir sur le Grand Bain, il va s'adresser à tous les techniciens du film, mais aussi aux figurants. Il va traverser la rue pour aller parler avec les gens. C'est quelqu'un qui aime la vie et qui, en même temps, a une fêlure interne bouleversante, ce qui le rend à la fois extrêmement drôle, mais en même temps, en un battement de cils, basculer dans le drame en deux secondes. Et c'est, voilà, il a une palette de jeux que je trouve rare, unique, et c'est un homme que j'aime vraiment profondément. Mais comme j'ai appris à aimer tous mes acteurs, j'ai eu la chance d'avoir des acteurs et des actrices qui m'ont aidé, évidemment, mais parce qu'ils ont, le mot est bien choisi, mais ils ont vraiment plongé avec moi dans cette histoire. Ce qui était pas simple à la base, parce que sur le papier, une bande de mecs qui font de l'adaptation synchronisée, bon, c'est pas si évident. Et ils ont surtout joué le jeu, ils se sont entraînés comme des dingues. Et c'est vrai que même un Benoît Poulvorde que je connais plus bordélique et plus un peu je m'en foutiste, là était très concerné. Il y avait quelque chose, je crois, qui nous parlait à tous. Et moi, j'ai profité de cette alchimie du groupe.
Et puis il y a bien sûr Guillaume Canet, c'est un grand pote à vous, j'ai l'impression. Guillaume Canet, vous avez vos carrières sont vraiment en parallèle. Il y a Philippe Catherine aussi. Ce casting, il a été compliqué à faire, ou pour vous ça a été dès le départ, il y avait déjà des noms sur le papier qui étaient là présents dès le début?
Non, en fait j'ai écrit en m'obligeant à ne penser à personne, parce qu'en fait par expérience sur mon premier film, j'avais vraiment écrit pour des acteurs, et puis pour peu que les acteurs vous disent non. Vous n'avez pas encore commencé à tourner, que vous êtes déjà amputé d'une sorte de rêve, de fantasme, et je me suis interdit ça. J'avais envie d'aller choisir le meilleur acteur pour le rôle. Donc j'ai écrit sans penser à qui que ce soit, et naturellement, en fait, une fois que je me suis posé, je me suis dit bon, qui, comment, j'ai été voir Mathieu Amalric en premier, que je connaissais parce qu'on avait fait un film de Jean-Paul Rapneau ensemble, et de Luc Besson aussi, mais il y a assez longtemps, sans se croiser, sans se connaître vraiment. Et je lui ai proposé mon film et il m'a dit oui, sans même lire le script. Ce qui augurait d'une série de bonnes nouvelles pour moi. Et je l'imaginais pas à la base, mais en fait, il m'a dit oui. Il m'a dit, écoute, je te connais, je sais le film que tu vas faire. Tu m'as parlé de ton thème. J'y vais, je fonce. Bon, il s'avère qu'il a lu le scénario après et que ça lui a plu, heureusement. Mais j'ai eu beaucoup de chance avec ce film, notamment avec le casting. Je n'ai rencontré absolument aucune contrainte, aucun refus. Il y a eu quelque chose d'extrêmement gracieux, le casting étant, puisqu'on rentre dans les choses un peu techniques, le casting étant un peu la chose la plus compliquée pour un réalisateur, parce qu'on rêve de ces personnages, on écrit avec enthousiasme, et l'épreuve du casting peut être très rédhibitoire, peut être très castratrice. C'est-à-dire que si vous rencontrez 2, 3, 4 acteurs qui vous disent non sur le même personnage, vous commencez à remettre en question votre écriture très fortement, quoi. Et ça met un coup dans l'aile, mais que ce soit pour vous, mais pour vos producteurs, pour tous les gens qui vous accompagnent. Et là, j'ai eu une chance inouïe, c'est qu'ils m'ont tous dit oui tout de suite. J'avais même des candidatures spontanées d'acteurs et d'actrices auxquelles j'avais pas pensé, qui m'appelaient pour me dire, il paraît que ton film est génial, j'aimerais le lire et tout. Et ça m'a évidemment énormément porté, quoi. Ça m'a donné une confiance inouïe. J'ai écrit assez longtemps ce film avec mes camarades Ahmed Hamidi et Julien Lambroschini. On a écrit pendant presque 3 ans. Donc quand les acteurs vous disent oui, c'est le premier feu vert, le plus symbolique et certainement le plus important, en fait. Au-delà de l'argent, je veux dire, c'est qu'après il vous faut de l'argent pour faire le film, mais la chose la plus importante, c'est d'avoir la validation des acteurs et des comédiennes. Moi, étant acteur moi-même, je sais l'importance que ça.
Et au bout, un super succès populaire. C'est un film qui a vraiment très bien marché en France, très bien apprécié par la critique, en tout cas ce que j'ai pu en lire jusqu'ici. Et c'est vrai qu'en France, on en parle de ce film, on a parlé de ce film. Pour vous, c'est une validation d'un travail peut-être bien fait?
En fait, pour revenir à cette succession de feux verts, il y en a eu un autre de feux verts qui a été assez inouï et complètement inattendu, je vous avoue. C'est le Festival de Cannes qui a sélectionné le film de manière officielle, c'est-à-dire dans la grande salle. Ça a été une expérience absolument inouïe, parce que la comédie, on peut pas dire que ce soit forcément le style du festival. Et donc quand ils m'ont sélectionné, que on a eu l'accueil qu'on a eu, puis le lendemain, cette déferlante de critiques ultra positive, oui, ça a été certainement la chose la plus joyeuse et la plus inédite que j'ai vécue dans toute ma carrière. Ouais, ça a été déjà, j'ai adoré faire ce film, évidemment. J'ai adoré l'écrire, j'ai adoré le faire, le réaliser. être entouré de tous ces gens tous les jours. Et puis le résultat a été bien au-delà de tous mes espoirs, vraiment, que ce soit critique ou public. J'ai constaté après le Festival de Cannes, parce que le Festival de Cannes c'est bien beau, mais après c'est la rencontre avec le public qui importe. Et j'ai fait une grande tournée province où je me suis baladé dans toute la France et je voyais l'engouement qu'il y avait autour du film et l'accueil que je pouvais avoir avant ou après, et surtout après le film. Il y avait des débats qui n'en finissaient pas, où je parlais, normalement on présente un film, on parle avec les gens une demi-heure, et puis là ça pouvait durer une heure et demie, deux heures parfois. Et j'ai compris à ce moment-là que le film avait un écho très important en France, mais je pense qu'il a aussi eu... j'ai eu beaucoup de chance aussi sur l'agenda, en fait, de la sortie de mon film. Quand j'ai écrit le film, je ne pensais pas qu'il aurait un écho aussi particulier avec ce que vivaient les Français au moment où il est sorti. Et je pense que c'est un film qui a parlé aux gens, parce que justement, il n'est pas technologique. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de réseaux sociaux. Il n'y a que des gens qui se parlent ensemble, qui sont des gens assez brisés, mais qui ont un sursaut commun. Et je crois que ça faisait écho avec une problématique actuelle et très française. Je suis pas sûr, j'ai pu voir que le film marchait dans certains pays, dans d'autres pas du tout, parce que cette thématique là est pas n'a pas forcément d'écho dans tous les autres pays.
Non, c'est un très beau film, honnêtement. Moi, je l'ai vu et c'était vraiment un super plaisir de le voir. On va parler d'un autre film que vous avez ici en tant qu'acteur, Pupille, In Safe Hands, pour le titre en anglais. Alors là, je veux juste dire un titre. Enfin, il y a eu une critique quand on commence la bande-annonce, ça dit bouleversant. Et je pense que ce film est littéralement... Enfin, moi, il m'a secoué, ce film. Il est bouleversant. En tant que père de famille, bouleversant.
Ouais. Ah oui. Je ne fais que confirmer ce que vous dites. C'est que moi, c'est la première fois que je le dis sans aucune pudeur, mais c'est vrai, c'est la première fois que je pleure en lisant un script. Voilà, c'est ce qui est quand même totalement inédit et rare, parce que c'est un script, c'est un petit travail, on imagine ce que ça peut donner, mais c'est rarement suffisamment bien écrit pour engendrer une émotion à ce point-là. Et ouais, ce film, je me souviens avoir pleuré deux, trois fois en le lisant. Et surtout m'être dit que j'avais énormément de chance que Jeanne Herry, la réalisatrice, pense à moi pour ce rôle-là. C'est un film pareil qui a été fait dans un certain état de grâce. La thématique est formidable. Elle donne une vision du fonctionnariat, du service public, un peu différente de ce qu'on peut avoir jusque-là. C'est un film qui donne du sens au fait de payer des impôts, ce qui est déjà pas mal.
Et on voit l'humanité derrière tout ça.
C'est-à-dire qu'en fait, moi, je ne savais absolument pas, puisque le film parle des services d'adoption et le chemin de croix qu'une mère célibataire peut endurer, traverser pour adopter, et d'un autre côté, toute la chaîne humaine qui opère et qui se met en branle quand un enfant, quand un bébé est abandonné, qu'il est pupille de la nation. Et c'est absolument exceptionnel de voir cette chaîne humaine. Mais pareil, un peu comme à l'instar du Grand Bain, on parle du collectif, on parle de l'humanité, on parle des gens, on parle d'une certaine France, de services sociaux typiquement français. Et dans ces cas-là, ça fait du bien de se dire qu'on peut être fier d'être français, parce qu'aucun bébé, par exemple, ne peut être abandonné totalement dans notre pays. Et qu'on voit le cœur que les gens mettent autour de ses enfants. Et ouais, c'est évidemment, évidemment bouleversant.
Ce film donc parle de l'histoire de l'adoption. C'est forcément, en tant que père de famille, je pense que ça touche. Vous pensez que cette réception en France a été assez importante, assez couverte peut-être par les médias? Est-ce que c'est un film qui a été supporté, soutenu?
Oui, relativement. Après, je déplore une chose, c'est que le film n'ait pas été pris dans des festivals, par exemple, parce que peut-être, probablement, parce qu'il est quand même finalement assez positif, et que les festivals, pour la plupart, sont plutôt enclins au misérabilisme, un certain misérabilisme. Et ce film-là ne l'est pas du tout. En fait, il est très honnête, très documenté. Moi, je trouve que la grande grâce du film de Jeanne, c'est qu'elle réussit à faire un vrai film de cinéma avec un sujet qui aurait pu être une sorte de documentaire amélioré. Mais elle y raconte toute la tension, toute la complexité de ces gens qui travaillent autour de cet enfant, et du personnage d'Élodie Bouchèze qui se bat mois après mois, année après année, pour essayer d'adopter. Et comme la fin est relativement solaire, Je pense qu'il a été un peu handicapé par cette fin-là, alors que je la trouve formidable et magnifique. Le film a eu d'excellentes critiques quand il est sorti, par contre, d'excellentes critiques, et surtout, il a rencontré un très large public, puisque le film a fait presque 1 million d'entrées, donc c'est formidable avec un sujet comme ça, ouais.
Jouer avec un bébé, c'est compliqué. Est-ce que vous, dans votre tête, vous imaginez que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, vous allez peut-être garder contact avec ce bébé avec lequel vous avez joué?
En fait, non, je pourrais pas vous dire que je vais garder contact avec ce bébé, parce que c'était vraiment des bébés qui avaient entre 2 et 3 mois. Et ils n'ont pas conscience d'avoir joué dans un film. Enfin, je ne pense pas, en tout cas, je ne l'espère pas. mais en fait, vous savez, quand vous jouez avec un bébé, vous ne jouez pas. Moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir joué avec ses enfants. Et puisqu'il y en avait 2 ou 3, puisqu'on ne peut garder un enfant sur un plateau que 2 heures. Donc, je les avais dans les bras, je les prenais dans mes bras. Et je les reposais pas, quoi, parce qu'ils restaient là 2 heures. Donc, il n'est pas question de les prendre, de les reposer, de les reprendre, de les reposer. Il faut rester avec eux. Et ces bébés-là, il y avait pour certains, pour pas dire tous, parce qu'en fait ils étaient assez incroyables, c'était ces sortes de bébés de Niro qui me regardaient au moment où il fallait me regarder, qui avaient vraiment comme quoi il y a vraiment quelque chose dans le dialogue et dans le regard et dans l'écoute avec les enfants, même s'ils sont en bas âge comme ça, qui peut sembler un peu dérisoire, on peut dire oui, oh, ça va, etc. Mais en fait non, l'importance du dialogue et de l'écoute est incroyable avec les bébés. Et donc oui, j'ai pas eu le sentiment de jouer, j'étais simplement connecté avec un bébé, quoi. Il y a rien de plus immédiat que ça. Donc, je peux pas vous faire l'acteur qui a énormément travaillé. J'étais juste un homme avec un bébé dans les bras. Voilà.
C'est beau. donc, réalisateur, acteur, pour vous, c'est 2 vies séparées. Comment vous gérez ça? Ou est-ce que c'est incomplet? C'est vraiment ce que vous vouliez faire? C'est le type de vie auquel vous rêviez quand vous étiez à Savigny-sur-Orge, peut-être déjà à 8 ans?
C'était encore un peu prématuré à cette époque-là, même si j'étais déjà assez fan de cinéma, mais.
Pas à l'Excelsior quand même.
Si, à l'Excelsior, j'ai vu mon premier film.
Moi pareil.
C'était Star Wars. Ouais,
moi je sais plus ce que c'était, mais j'ai vu mon premier film à l'Excelsior, c'est sûr.
Et Star Wars, j'y suis allé au moins 5 ou 6 fois. Je sais que je saoulais mes parents pour retourner le voir, et à l'Excelsior, je sais qu'il n'existe plus. Hélas, qui existait encore il y a une dizaine d'années, mais qui a disparu. Comme beaucoup de cinémas français laissent la place au multiplex, hélas. Mais oui, je suis arrivé à un moment assez cohérent de ce que je voulais faire de ma carrière, c'est sûr. Je crois pas que j'aurais pu continuer à être que acteur, parce qu'au bout d'un moment, servir les mots des autres et leur univers et leur goût me suffisait plus, en fait, au bout d'un moment. J'avais l'impression de tourner en rond, et puis je crois que avec l'âge, on a envie de s'exprimer un peu plus. J'avais envie il était grand temps pour moi, en fait, de dissiper certains malentendus aussi. J'avais envie de m'exprimer. J'avais envie de faire mon film, m'exprimer mon goût, ma vision du monde, ma vision des personnages. On a souvent l'impression que parce qu'on est acteur de cinéma, on est dans une espèce de tour d'ivoire complètement déconnecté du monde. Et moi, je viens pas du tout de ça. La preuve, hein, je viens de Clairvillage, donc vous voyez, à peu près. Donc j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour les personnages cabossés, pour un milieu relativement simple d'où je viens, et c'est ça que j'ai envie de défendre. Et puis en tant qu'acteur, je peux aller sur d'autres terrains, mais de pouvoir allier l'un et l'autre, pour moi c'est assez paradisiaque, en fait, c'est assez idéal, parce que ouais, je touche du bout du doigt un rêve absolu.
Et vous parliez justement du côté social de votre cinéma, de votre entre guillemets œuvre. On peut mettre même ça en place. En Grande-Bretagne, il y a des réalisateurs comme Ken Loach qui en ont fait leur vie intégrale. Pour vous, ce qui se passe en ce moment en France, est-ce que vous sentez cette révolte? Est-ce que c'est quelque chose qui, vous pensez, va entre guillemets encore une fois inspirer peut-être l'avenir et changer beaucoup de choses, à la fois pour les gens, mais peut-être également dans le cinéma?
Dans le cinéma, j'ai l'impression que c'est déjà le cas. J'ai l'impression que je suis pas du tout le seul à faire des films qui vont dans ce sens. Il y a de plus en plus de comédies sociales. Ça, c'est une réalité, ce qui n'existait pas du tout avant. Il y a de plus en plus de films qui sont tournés quand même vers des sujets de société. On pouvait voir, notamment au César cette année, les films qui ont été primés, hein, c'est vraiment ça. Mais je crois qu'en fait, il est grand temps. On est dans une époque qui est très particulière. On a vécu des choses extrêmement douloureuses, extrêmement violentes. Et ces choses-là, au lieu de nous au lieu de nous souder, au lieu de nous réconcilier, au lieu d'opérer vers une cohésion sociale, en fait, ça a été l'effet totalement inverse. Et on est dans une société aujourd'hui qui est complètement fractionnée, où on agit les uns contre les autres, et pas les uns avec les autres. Et c'est assez absurde et assez triste à constater. Et je crois qu'on est arrivé dans un tel niveau de douleur, de rancœur, de non-dit, que finalement, chacun prêche pour sa paroisse. Il n'y a plus de débat, il n'y a plus d'écoute, il n'y a plus de compréhension. On assiste à des combats internes que je trouve finalement assez ridicules. Je crois qu'il serait grand temps qu'on se parle tous, mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à le faire. On a beaucoup, beaucoup de mal à avoir une vision globale, à prendre de la hauteur. On a beaucoup de mal à être, à se laisser gouverner, quel que soit le président qu'on peut avoir ou le parti qu'on choisit. On remet tout en question. Et moi, je prends pour exemple les Gilets jaunes. Je crois que le début du mouvement du Gilet jaune est extrêmement sain et logique. Que cette colère et que cette douleur, elle est logique. Par contre, la violence inhérente à ce qui s'est passé, la façon dont ça a été rattrapé par des petits fachos antisémites ou racistes ou violents ou extrémistes, voilà, tout ça, moi, me dégoûte au plus haut point. Et je crois qu'il est grand temps de essayer de s'aimer un peu plus. Voilà, on a un peu un problème avec ça.
Alors, à finir sur une dernière question, beaucoup plus positive, ce festival. Un, est-ce que vous le connaissiez avant? Deux, vos premières impressions, vous avez vu l'ouverture à Sydney, l'ouverture à Melbourne également. Gros chiffre, hein, on atteint presque les 200 000 entrées sur un festival de films français, donc en langue étrangère ici. Vous en pensez quoi de ce festival jusqu'à là?
Bah écoutez, moi je trouve ça assez extraordinaire en fait. Je suis assez épaté par... J'ai fait l'ouverture à Sydney et puis hier soir à Melbourne. C'est incroyable la chaleur qu'il y a, l'écoute, la curiosité. Moi, je suis toujours très épaté par ça en fait. Je trouve que c'est absolument incroyable que les gens prennent leur voiture, partent de chez eux, viennent à un festival de films dans une langue étrangère, découvrent des mondes complètement inédits pour eux. Je veux dire, on est en Australie, c'est-à-dire que là, je suis au bout du monde, quoi. Et je trouve ça, c'est marrant parce que finalement, alors que j'ai fait 24 heures d'avion, j'ai l'impression d'une espèce de promiscuité, de proximité avec les gens, inédite, incroyable, une chaleur, c'est extraordinaire qu'il y ait autant de gens qui se déplacent pour aller voir des films français. Voilà, ça me donne beaucoup d'espoir. De toute façon, j'ai beaucoup d'espoir moi pour le cinéma français, que je trouve de plus en plus intéressant, de plus en plus capable de franchir beaucoup de frontières. Moi, c'est peut-être un peu trop positif, hein, vous me direz, mais je crois que ouais, je crois qu'il y a on bénéficie d'un cinéma qui est très diversifié, qui est de mieux en mieux fait, de mieux en mieux joué, et tant mieux pour nous, et tant mieux pour tous les autres pays. Voilà.
De Savinien à Savinien, merci.
Merci à vous.
Vous pouvez nous écouter quand vous le souhaitez. Téléchargez émissions, interviews et actualités à la demande. Visitez la page sbs.com.au/french.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.